Alors, le ministre de l'Immigration, Simon Jolin Barrette, a annoncé ce matin un investissement de 20 millions pour mieux améliorer l'accompagnement. Je suis champion pléonasmique, toute catégorie. Pour améliorer l'accompagnement aux immigrants. Bonjour, monsieur le ministre.
Bonjour, monsieur Bigrand.
Vous allez bien?
Ça va bien, vous?
Oui. Êtes-vous encore obligé de faire du jogging à job ou ça va, là?
C'est correct? J'essaie de maintenir la forme physique. Alors,
ah oui, il faut se garder en forme, c'est certain.
Je vais continuer. Mais je vais vous souhaiter une bonne dernière journée.
C'est très gentil. J'apprécie beaucoup. J'apprécie nos rencontres aussi. Alors, à quoi ça consiste exactement là, votre nouveau programme? Expliquez-nous tout ça. Je sais que vous avez fait une conférence de presse là-dessus.
Mais, oui, on a fait une conférence de presse ce matin pour annoncer un parcours d'accompagnement personnalisé. Pour faire en sorte que les personnes immigrantes, dès l'étranger, elles aient des ressources du ministère de l'Immigration pour assurer leur intégration et leur accompagnement. Parce que ce qu'il y avait actuellement au ministère de l'Immigration, c'est qu'on envoyait une lettre pour dire, bon, mais vous êtes sélectionné, mais les démarches associées à l'intégration étaient assez limitées. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que chaque personne qui est sélectionnée par le Québec va se voir assigner un agent d'aide à l'intégration pour faire en sorte que tout au long de son parcours d'immigration au Québec, bien, elle ait une personne ressource au ministère de l'Immigration. Ça va se passer par l'aide à l'installation, ensuite par la francisation, par l'aide à l'emploi, puis aussi au niveau du suivi. Parce que la vérificatrice générale nous avait dit il y a 2 ans environ au ministère de l'Immigration, vous ne faites pas de suivi. Vous ne savez pas comment ça va l'installation des personnes qui ont immigré au Québec. Alors vraiment, on bonifie ça. Et surtout, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on ajoute 78 agents d'aide à l'intégration sur l'ensemble du territoire québécois, particulièrement dans les régions. Parce que souvent, vous savez, l'immigration est concentrée à Montréal. Et ce qu'on souhaite faire, c'est que dans toutes les régions du Québec, bien, ils puissent accueillir des personnes immigrantes. Mais le ministère de l'Immigration n'était pas présent en région. Alors, ce qu'on fait là, c'est qu'on va avoir des agents qui vont être disponibles sur le territoire québécois dans les différentes régions pour faciliter l'intégration dans les différentes régions du Québec.
Donc, ce que je comprends, c'est que ça va éviter les surprises du genre on vous promet un emploi, puis finalement, ou bien, par exemple, j'ai un doctorat en médecine, mais je peux pas exercer. Il va peut-être falloir que vous mettiez les gants un petit peu avec les lobbies de médecins et tout ça, parce que là, il va falloir imposer tout ça s'ils ont les bonnes compétences, évidemment.
Oui. Mais dans un premier temps, ce qu'on a annoncé il y a quelques semaines, le lancement du système ARIMA, c'est pour sélectionner les personnes migrantes en fonction des besoins du marché du travail. Aujourd'hui, avec le parcours d'accompagnement personnalisé, c'est ce qu'on fait, supposons, depuis l'étranger, au niveau des ordres professionnels, la formation, de la reconnaissance des diplômes. On va entamer dès l'étranger cette reconnaissance-là pour que lorsque la personne arrive au Québec, elle sache quelles sont les exigences ou déjà qu'elle a déjà fait toutes les démarches pour que sa formation soit reconnue ou qu'elle ait le permis de l'ordre professionnel. Et surtout, si elle a une mise à niveau à faire, qu'elle le sache dès l'étranger aussi. Parce que ça prend de la prévisibilité. Lorsqu'on choisit d'immigrer dans un pays, ben on déménage toute sa famille, on arrive, on s'installe, puis on veut travailler dans un domaine de formation pour lequel on a été formé, pour lequel on a de l'expérience ou qu'on aime. Puis parfois, il y a certaines personnes qui se retrouvent dans des situations où ils ont plusieurs années à faire de formation, de mise à niveau, où leurs diplômes ne sont pas reconnus. Il faut travailler là-dessus en amont, dès le pays d'origine. Même chose pour la connaissance du français. On veut accentuer les cours de francisation en ligne dès l'étranger pour que la personne, lorsqu'elle arrive au Québec, elle ait déjà minimalement une connaissance de la langue française. Parce que les deux facteurs d'intégration plus grands, c'est la connaissance de la langue d'usage, le français, puis le fait d'occuper un emploi. Donc, dans les deux cas, on travaille là-dessus. Puis surtout, l'agent d'aide à l'intégration, là, il va accompagner étape par étape la personne migrante. L'idée, là, c'est de leur donner le plus de ressources possible pour faciliter leur intégration au Québec.
OK. L'idée, moi, me semble très, très séduisante, c'est certain. Je veux juste essayer de concilier ça avec un petit peu tout. Comment vous conciliez toute cette démarche-là avec la baisse des seuils d'immigration? Là, on s'entend que là, c'est même pas moi, là, le sale gauchiste, là. C'est le conseil du patronat qui pense qu'ils disent littéralement Québec fait fausse route. Le conseil du patronat, qu'est-ce que vous leur répondez?
Oui, bien, dans le fond, pour l'année 2019, tel qu'on s'y était engagé en campagne électorale, on a diminué les seuils à 40 000 personnes pour cette année. Pourquoi
ils
c'était...
Ils disent toujours que ça prend 80.
Oui, bien, pour cette année... il fallait prendre un pas de recul pour réparer le système d'immigration. J'ai annoncé, on transforme le système d'immigration avec le projet de loi 9. On fait en sorte maintenant de sélectionner en fonction des besoins du marché du travail. J'ai annoncé des bonifications en matière de francisation. Maintenant, il va avoir une allocation de 185 $ par semaine en francisation. Pour les cours à temps partiel, il y a une allocation maintenant qu'on a créée. Aujourd'hui, on annonce un déploiement des ressources sur l'ensemble du territoire québécois et un agent d'aide à l'immigration par personne qui choisit d'émigrer au Québec. On annonce également que pour suivre le cours session Objectif intégration qui parle des codes socioculturels du Québec, on va avoir une allocation de 185 $ aussi. Tout le processus...
Les codes socio-culturels du Québec.
Oui, dans le fond, comment est-ce que la société québécoise est établie? C'est un cours qui existe déjà, mais qui n'est pas suivi...
Est-ce que c'est ça, votre test des valeurs? Parce que là, on n'entend plus parler bien.
Non, on n'est pas sur la question du test des valeurs, comme vous dites. Éventuellement, il va y avoir une évaluation de connaissance des valeurs québécoises, comme ça se fait, supposons, pour l'examen de citoyenneté canadienne. Mais aujourd'hui, c'est de l'accompagnement qu'on annonce. On fait en sorte de déployer des ressources. Mais pour revenir à la question des seuils, la semaine prochaine à l'Assemblée nationale, on va être en commission parlementaire puis on va entendre différents acteurs qui vont venir nous dire ce qu'ils pensent sur les seuils. Nous, on a fait une proposition du gouvernement. On a diminué à 40 000 pour 2019. Pour les années 20, 21, 22, on propose d'hausser graduellement jusqu'à 52 000 pour en 2022. Mais on avait la nécessité de corriger puis d'améliorer le système d'immigration puis d'en faire plus pour les personnes immigrantes pour leur intégration et la francisation. Puis je vous donne...
C'est un fait, parce que ce qui a donné lieu à beaucoup d'intolérance, c'était beaucoup de gens disaient bien, nos immigrants sont mal intégrés. Mais il faut savoir que même si on se définit comme pays d'accueil, on est juste chanceux d'être né ici. Là. Moi, je n'ai pas mérité de naître ici. C'est mes parents qui ont décidé. Alors, on a une responsabilité comme pays d'accueil de les accompagner pour que ça soit bien fait.
Bien, vous avez raison. Puis l'autre élément, moi, qui m'a choqué quand je suis arrivé comme ministre de l'Immigration, le taux de surqualification des personnes migrantes, 59 % pour les immigrants de moins de 5 ans ici. Ça veut dire, là, 3 personnes sur 5...
C'est énorme.
C'est énorme. Ça veut dire 3 personnes sur 5 qui sont ici n'occupent pas un emploi à la hauteur de leurs compétences. Ça veut dire que...
On peut reprendre l'exemple du taxi dans le cas d'un médecin ou un ingénieur physicien.
Des cas comme ça, je veux pas que ça arrive. C'est pour ça qu'on change la façon qu'on sélectionne les gens. Parce que je veux pas que des rêves soient brisés non plus. On leur dit, on vous promet la lune en venant au Québec, puis finalement, c'est pas ça la situation.
C'est des rêves de toute une famille qui sont brisés à ce moment-là.
Deuxième élément, le taux de chômage. C'est pas normal que le taux de chômage soit plus du double chez les immigrants de moins de 5 ans que la population native. Alors, il faut travailler là-dessus aussi parce que ça, c'est un facteur d'intégration à l'emploi. L'autre point aussi, tantôt, on parlait du soutien puis du suivi qu'on donne aux personnes immigrantes. À l'aéroport à Montréal, on a un bureau d'accueil à l'immigration, mais uniquement pour les vols nationaux et transfrontaliers. Mm-hmm. Mais ça arrive qu'il y a des personnes migrantes qui prennent un vol vers Toronto, vers Calgary, puis ensuite, ils prennent un vol domestique vers Montréal par la suite, puis on n'avait pas de bureau. Là, on est en pourparlers avec l'aéroport de Montréal pour faire en sorte que dès les premiers jours, dès les premiers moments sur le territoire québécois, la personne rencontre un agent du ministère de l'Immigration. Et on va lui donner un rendez-vous dans les 5 jours ouvrables pour le rencontrer, pour faire un plan personnalisé pour dire, quels sont vos besoins à vous? Parce que chaque personne a sa propre histoire.
C'est parce que dans les besoins de cette personne-là, il n'y a pas juste les siens, il y a ceux de sa famille aussi.
Tout à fait, tout à fait. Mais vous savez, vous arrivez dans un nouveau pays, dans une nouvelle ville, comment ça fonctionne l'école, les documents officiels, l'intégration à l'emploi aussi. Donc, à l'intérieur de 5 jours, la famille va se faire rencontrer par un agent du ministère de l'Immigration. Puis on va les référer vers les organismes communautaires qui sont partenaires avec le ministère de l'Immigration. Et par la suite, on va prendre rendez-vous avec eux pour les inscrire à des cours de français. On va faire évaluer quel est le niveau de français qu'ils ont actuellement. Puis on va les informer sur les allocations qui sont disponibles. Est-ce que vous préférez prendre un cours à temps plein, à temps partiel, en fonction de votre propre réalité?
Est-ce que vous allez favoriser certaines régions? Parce que, il y a beaucoup de gens qui critiquent les Maghrébins en ce moment, mais l'immigration maghrébine, c'est nous qui l'ont voulu parce qu'ils parlaient français au départ.
Vous voulez dire au niveau de la sélection?
Au niveau de la sélection, en dehors du pays, est-ce que vous visez des régions du globe plus que d'autres? Est-ce que vous vivez les endroits francophones avant, peut-être?
Non, pour nous, dans un premier temps, ce qui est important, c'est de répondre aux besoins du marché du travail. Donc, on ne veut pas avoir de limite. Alors, quelqu'un qui a des compétences qui sont nécessaires, nous, ce qu'on dit, c'est appliquez, faites votre déclaration d'intérêt, puis par la suite, on va vous inviter. Si vous ne parlez pas français, on va déployer les ressources pour que vous appreniez le français au Québec. C'est pour ça qu'on met... Le plus rapidement possible.
Juste pour votre travail, mais pour votre vie de tous les jours, pour vos enfants, pour...
Tout à fait, mais ça, dès l'étranger. On va mettre l'accent sur les cours de francisation dès l'étranger. Et l'autre point aussi, c'est que chaque immigrant qui vient au Québec a une situation qui lui est propre. Alors, on va avoir un système qui va être adaptable, qui va être flexible pour répondre aux besoins. Puis c'est pour ça que je souhaitais avoir des ressources supplémentaires au ministère de l'Immigration pour parler à un humain, hein, un agent. Oui. Puis le ministère de l'Immigration, au cours des dernières années, s'était désinvesti des régions. On était plus dans un mode rationalisation plutôt que dans un mode d'accompagnement des personnes immigrantes. Alors, le succès là, de la société québécoise, chaque personne là, qui réussit, qui est un immigrant, puis qui réussit à s'installer en région, à occuper un emploi et à être heureux aussi dans sa région d'accueil, bien, ça va être un succès pour tout le Québec. Alors, c'est dans l'optique dans laquelle on a développé le parcours d'accompagnement personnalisé que je lance aujourd'hui.
Je comprends. Je comprends que là, en ce moment, on parle pas des réfugiés, on parle vraiment d'immigration pour une pénurie de main-d'œuvre. Mais est-ce qu'on va privilégier les gens qui sont plus en situation de désespoir que les immigrés économiques, par exemple?
En fait, le plan d'accompagnement personnalisé, il touche toutes les catégories d'immigration. Que vous soyez un immigrant économique, que vous soyez regroupement familial ou que vous soyez un réfugié, malgré qu'il y a des programmes particuliers pour les réfugiés. Le Québec, à chaque année, dans sa planification là, du nombre d'immigrants, il accueille un certain nombre d'immigrants économiques et il respecte ses obligations internationales en matière d'accueil de réfugiés et de regroupement familial aussi. Alors, pour ça, ce n'est pas un enjeu. Ce qu'on veut faire, par contre, c'est hausser le pourcentage du nombre d'immigrants économiques qu'on sélectionne, notamment pour répondre aux besoins du marché du travail. Mais une chose qui est sûre, c'est que le parcours d'accompagnement personnalisé, les cours de francisation, c'est maintenant ouvert à toutes les personnes immigrantes, qu'elles soient en statut temporaire au Québec ou qu'elles soient en statut permanent. Même chose aussi au niveau de
la vie. Comment elles vivent pendant leur cours? Pendant leur cours, comment elles gagnent leur vie?
Bien, en fait, on a bon exemple pour le cours de français. On est passé de 141 à 185 $ par semaine, qui est une augmentation majeure. À temps partiel, avant l'annonce que j'ai faite le mois passé, c'était 0 $ que vous aviez. Là, on a fait une bonification à 15 $ par jour de présence. Parfois, c'est un petit incitatif qui va donner un encouragement pour aller suivre le cours. Et surtout aussi, on a élargi ça au-delà de 5 ans. Avant, les services étaient offerts aux immigrants de moins de 5 ans ici. Maintenant, on dit qu'il n'y a pas de limite. On est vraiment dans une optique là, de dire qu'est-ce que l'État québécois peut faire pour assurer une intégration réussie. On est vraiment en mode collaboration. Puis ça fait partie de l'engagement partagé. Je le dis souvent, l'immigration, là, c'est bilatéral. Là. C'est à la fois la personne immigrante qui choisit de venir au Québec, qui choisit de venir contribuer à la société québécoise.
C'est responsabilité partagée, c'est ça.
Exactement. Puis nous, maintenant, le gouvernement du Québec remplit son bout du contrat, si je pourrais dire. Et on est vraiment dans cette logique-là. C'est pour ça qu'on a investi massivement dans le ministère de l'Immigration. On a été chercher 146 millions supplémentaires cette année. Et l'objectif aussi, et on le voit dans toutes les régions du Québec, il y a des besoins. Parce que si on veut que les différentes entreprises survivent et qu'elles ne soient pas délocalisées, que les villes puis les villages puissent avoir une vitalité, ben ça prend des gens. Puis dans les régions, on est prêt à accueillir les personnes immigrantes. Alors, c'est pour ça qu'il faut vendre nos régions puis inciter les gens à s'installer dans les régions du Québec.
Je comprends. J'ai pas pu parler à votre collègue, le ministre Roberge, mais je connais votre programme maternel 4 ans, qui n'est pas votre ministère, je suis très au courant quand même, mais c'est évident que les anciens enseignants n'ont pas très, très envie de revenir, tout le monde l'a compris. Là, vous allez essayer de piger dans les garderies CPE. Mais c'est parce que le voile en garderie CPE ne pose pas de problème, mais aussitôt qu'ils vont passer en maternelle 4 ans, ça va leur poser un problème. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Avez-vous une idée?
Bien, en fait, ce que mon collègue, le ministre de l'Éducation, a annoncé hier, je crois, c'est que maintenant, il va y avoir une possibilité pour les éducatrices en garderie de devenir enseignantes si elles s'inscrivent là, dans certains cours, une transition. La loi sur la laïcité de l'État, le fait de ne pas porter de signes religieux, s'applique aux gens qui exercent la fonction d'enseignant. Le gouvernement du Québec a fait un choix. Et donc, à partir du moment où vous exercez la fonction d'enseignant au primaire ou au secondaire, vous ne pouvez pas porter de signes religieux.
Vous allez avoir de la misère à recruter. Et de toute façon, même si vous recrutez bien, comment vous allez remplacer les éducatrices en CPE? Il manque de monde, là. On est en presque plein emploi. En tout cas, légalement, on appelle ça en plein emploi, mais on a un taux de chômage très bas, là.
En fait, vous savez, l'immigration peut être une solution à la pénurie de main-d'œuvre, mais c'est
une
pas
des solutions.
Une des solutions. Il y a les travailleurs expérimentés aussi qu'il faut convaincre de rester sur le marché du travail. Vous savez, jusqu'à l'âge d'à peu près 60 ans, le Québec et l'Ontario, le taux d'activité chez les personnes jusqu'à 60 ans, c'est à peu près la même chose. Mais par la suite, au Québec, ça chute aussi. Fait que mon collègue
c'est parce
de l'emploi...
que dans l'enseignement, ils ne reviendront pas, je vous l'annonce. Puis c'est pas de votre faute parce que vous n'étiez pas au pouvoir, mais à force de couper, le gouvernement les a rendus fous, là. Fait qu'ils veulent plus revenir, ils sont en retraite, puis c'est plus jamais. C'est, on leur pose la question, c'est pas non peut-être, c'est plus jamais.
Je comprends,
mais... Ils sont très marqués, ils sont traumatisés, là. Mais c'est quand on se ramasse avec des classes de 35 élèves, et c'est ça qui est difficile pour les enseignants, ils voient les enfants souffrir, puis ils ont aucun temps pour s'en occuper. Mmh. Il faut qu'ils livrent la matière qu'ils doivent livrer, puis ils voient les enfants souffrir toute la journée. J'en connais plusieurs qui ont laissé tomber l'enseignement parce qu'ils n'étaient plus capables de voir des enfants souffrir.
Mais il faut pas baisser les bras. Et mon collègue à l'éducation est en train de mettre en place des mesures pour justement recruter des professeurs et faire en sorte de donner une qualité d'enseignement. Parce que c'est la base, hein, l'éducation. Puis surtout, ça permet aussi d'assurer l'égalité des chances. Peu importe d'où on vient, on doit pouvoir avoir accès à une éducation de qualité. Et mon collègue de l'éducation est présentement en train de s'assurer de faire en sorte qu'on ait suffisamment de professeurs. Mais c'est un défi, effectivement. Il y a une pénurie. L'autre élément aussi en matière d'éducation...
Un défi, j'aime ça, ce terme-là. Quand on dit que c'est compliqué puis que c'est un problème. Les politiciens disent que c'est un défi.
C'est un défi.
Mais... Je fais de la traduction dans ma tête à mesure.
C'est un défi, mais vous savez, on fait de la politique pour ça aussi. Pour résoudre les problématiques puis tenter d'amener des solutions. Un autre élément, il faut que la profession d'enseignant soit attractive. Vous le disiez, il y en a beaucoup de personnes qui ont été enseignants qui ne veulent plus revenir. Mais même chez les jeunes enseignants, le taux de personnes qui ont une formation en éducation puis par la suite décident de délaisser la profession est important. Puis il faut valoriser cette profession-là. Mais comment on la valorise? C'est notamment en donnant des conditions...
je vous suggère de les payer. Puis deux, je vous suggère qu'il y ait beaucoup plus d'enseignants pour pouvoir réduire les classes, de rétablir des psychologues puis des ergots pour tout le monde. Vous êtes d'accord avec ça? Excusez-moi de vous torturer avec ça, monsieur le ministre, mais c'est parce que je ne pourrais pas parler à votre confrère ministre de l'Éducation. Je ne serais plus là. Fait que vous êtes mon dernier ministre que je torture avant de repartir faire de la musique. Fait que c'est pour ça que je ne vous lâche pas.
Je peux vous assurer que mon collègue ministre de l'Éducation, qui a été enseignant pendant 17 ans au primaire, est très au fait de la réalité et est présentement au travail à trouver des solutions et très proactif aussi. Et le premier ministre le dit souvent, une des raisons pourquoi il fait de la politique, c'est pour s'assurer d'avoir un système d'éducation de qualité pour tous les enfants du Québec. Alors, sachez qu'il s'agit d'une de nos priorités.
Alors, à titre de citoyen et de musicien, je vais faire mon suivi quand même. Merci beaucoup, monsieur.
Merci.
Barrette, je vous serre la main. C'était le ministre Simon Jeanin Barrette, qui est ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion. De retour après la pause.